Bonjour et bienvenue à cette émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle, qui est en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Alors nous continuons ensemble notre cheminement, notre lente montée vers le dimanche de Pâques. Dimanche dernier, en fait, nous étions sur la montagne et là, nous sommes descendus dans la plaine, pas loin de, en fait, en Samarie. Nous aurons l'occasion de présenter cette province de la Samarie. C'est donc une rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Et nous avons choisi de ne pas faire la lecture intégrale parce que, bien, presque toute l'émission va y passer. Alors, on prend pour acquis que vous qui nous écoutez, vous connaissez assez bien ce récit qui est situé dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Bien, donc, récit long, mais récit assez connu.
Je pense, oui, à tout le moins, en tout cas, la symbolique de l'eau. Hein, les gens se souviennent volontiers du don de l'eau vive, source qui jaillit en vie éternelle.
Et aussi, ouais, et aussi les cinq Maries. Hein. On rappelle que Jésus est en présence d'une Samaritaine sur le bord d'un puits qui lui demande à boire.
Oui.
Et qu'il y ait qu'on se souvient que Jésus lui dit qu'elle a...
C'est ça, elle dit, va chercher ton mari.
C'est ça.
Et puis,
voilà.
J'en ai pas, oui, mais t'en as eu cinq. Enfin, on se souvient assez facilement de ce qui cloche chez les femmes dans les évangiles. Ça reste ça,
c'est dans
la mémoire des gens. J'aimerais préciser ici qu'à cause de ça, on lui met une étiquette pécheresse hein, dans notre perception. Mais si elle a été mariée légalement cinq fois, ça veut dire qu'elle a été répudiée cinq fois ou quatre fois. Parce que les Samaritains pratiquent aussi la loi de Moïse de façon très stricte. Et seuls les hommes ont le droit de décider de répudier leur femme. Hein. Alors, ben, peut-être évidemment que c'est par infidélité, à cause de l'infidélité qu'elle a été répudiée. Mais ça pourrait aussi bien être parce qu'elle est stérile. Et un homme a le droit de répudier sa femme, c'est l'hystérie. Donc
déjà, on élimine là cet aspect pécheresse.
Oui, en tout cas, c'est sûr qu'elle habite maintenant avec un homme avec lequel elle n'est pas mariée. Donc, si on veut à tout prix qu'elle soit pécheresse, il reste ça.
Bon, c'est un récit complexe. Hein?
Oui.
Complexe, et puis comme on disait en début d'émission, là, on ne pourra pas vraiment commenter tous les aspects.
Hein? Non, et entre autres, par exemple, le fait que Jésus parle d'adorer Dieu en esprit, en vérité, il parle de sa mission, on a la conversion des Samaritains, on va essayer d'intégrer le plus d'éléments possible, mais le dialogue entre Jésus et la Samaritaine est la partie la plus longue du récit, et c'est un aspect très original de ce récit, parce que c'est le plus long dialogue entre Jésus et quelqu'un dans les quatre évangiles. Ailleurs, les autres personnages ont un ou deux répliques. Parfois, ça va jusqu'à trois. Et la plupart du temps, ce que les autres disent est là simplement pour donner l'occasion de fournir un enseignement de Jésus qui tourne un petit peu au monologue. Là. Donc, ici, on a un vrai dialogue avec un contenu théologique riche. C'est une conversation en plusieurs étapes et chacun, lui, mais elle aussi, relance l'autre plus loin sur un autre sujet. C'est une très belle interaction entre Jésus et cette femme-là qui va permettre finalement une révélation progressive de l'identité de Jésus.
C'est ça, en fait, un dialogue à contenu, un contenu théologique,
oui,
quoi.
Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que c'est souvent commenté sous l'angle théologique. Je voudrais vous proposer un angle un peu moins familier. Je vous ai dit un petit peu en blague, c'est l'histoire d'un blind date. Ça vous a fait sourire. Alors, on garde l'expression qui n'a pas d'équivalent en français. Je sais pas comment on traduirait blind date.
Ouais, un rendez-vous entre deux personnes qui ne se connaissaient pas.
Qui est organisé actuellement par une troisième personne qui les aime bien là.
Ouais. Un rendez-vous à l'aveugle. Quoi.
Un rendez-vous à l'aveugle, c'est ça. Alors, c'est la clé que je propose pour l'ensemble du récit, mais je vais justifier pourquoi en donnant comme trois raisons qui permettent de choisir cette clé-là. Bon, il y a évidemment l'histoire des cinq maris à laquelle on va revenir. Une deuxième raison, c'est que le contexte d'une rencontre homme-femme près d'un puits, ça rappelle au moins trois autres récits qui sont tous dans l'Ancien Testament. Les rencontres au puits, c'est des rencontres qui finissent par des mariages.
Voilà.
C'est ça.
Alors, on pense à Isaac et Rebecca.
Oui, Jacob et Rachel, qui sont peut-être les plus connus. Et Moïse aussi, qui va rencontrer sa future au bord d'un puits. Donc, on va voir, en y revenant, que notre récit est construit un petit peu en écho à ces récits-là. Et la troisième raison qui invite à aborder sous l'angle de la symbolique conjugale, c'est ce qui précède tout juste dans l'évangile de Jean. C'est la fin du chapitre 3 où Jean-Baptiste parle de Jésus. Si vous voulez nous lire peut-être juste ce petit bout.
J'ai bien dit que je ne suis pas le Christ, mais que je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est rempli de joie en entendant la voix de l'époux. Cette joie, c'est ma joie, et elle est complète. Ça situe juste avant de la Samaritaine.
Alors que, bon, ce genre de parole-là, ça peut être placé presque n'importe où dans un évangile. Donc, on voit que Jean-Baptiste définit Jésus avec l'image de l'époux, et lui-même partage la joie de l'époux quand l'époux a l'épouse. Alors,
c'est un contexte conjugal,
oui, c'est ça. Et cette image de l'époux, on la sous-utilise, à mon avis. Pourtant, elle est présente aussi dans Marc, dans un autre contexte, et c'est Jésus qui l'a dit. Donc, c'est une image probablement assez traditionnelle qui remonte effectivement à Jésus. Alors, ici, c'est sûr que ça ajoute à l'identité de Jésus. La plupart des commentateurs de ce long récit de Jésus et la Samaritaine signalent qu'on a en fait le récit d'une lente révélation progressive de Jésus et de son identité. Je fais juste signaler en passant les titres et la progression des titres ou des désignations de Jésus. On aura la même chose avec le récit de l'aveugle-né d'ailleurs la semaine prochaine. La femme l'appelle d'abord un juif. Ensuite, elle pense qu'il est peut-être plus grand que Jacob. Ensuite, elle reconnaît en lui un prophète quand Jésus lui dit qu'elle a eu cinq maris. Elle relance la conversation à propos des endroits où il faut adorer relance ensuite l'idée que le Messie va venir bientôt. Et finalement, ça conduit Jésus à lui dire « Le Messie que tu attends, c'est moi ». Donc,
il y a un progressif là. Juif, premièrement. Ensuite, plus grand que Jacob. Troisièmement, prophète. Quatrièmement,
le Messie.
Ouais. Voilà.
Et ça, c'est la fin du dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Mais la fin du récit, qui verra les Samaritains venir à Jésus, nous amène à un autre titre qui est comme le sommet. Les Samaritains vont dire à la femme, maintenant on comprend et on sait qu'il est, lui, le sauveur du monde.
Ce sont les Samaritains qui vont faire cette proclamation.
Voilà.
C'est lui, le sauveur du monde.
Donc, finalement, ça définit bien la mission de Jésus en même temps que son identité, c'est accomplir l'œuvre de Dieu, ce qui est aussi mentionné dans le récit.
Bon, alors, maintenant, je vous rappelle... ramène à votre blind date, justement, là, le thème de l'époux.
Alors, vous avez mentionné Isaac et Rebecca. Peut-être que certaines de nos auditeurs se rappelleront qu'Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac.
C'est un beau récit. Ça. On trouve ça au livre de la Genèse, au chapitre 24.
Ouais.
Et j'inviterais ceux qui nous écoutent là à se donner la peine d'aller
lire
c'est une belle histoire, évidemment. Pas maintenant.
Alors, c'est une belle histoire. Et ce serviteur d'Abraham va s'arrêter à un puits et va prier Dieu en lui disant, celle à qui je vais demander à boire, si elle me donne à boire, ce sera elle, s'il te plaît, demande ça à Dieu. Et finalement, Rebecca arrive, et c'est la réponse à sa prière, et elle sera l'épouse d'Isaac. Même récit, ou même type de récit, Genèse 29, c'est le fils d'Isaac et Rebecca, alors Jacob, qui fait comme son père, finalement, qui s'en va d'ailleurs dans la même région, la région de naissance de sa mère, et... il arrive au puits et il rencontre là Rachel, et là, c'est le coup de foudre entre les deux.
Donc, encore à un puits, ça
encore
se passe.
Encore à un puits, mm-hmm. évidemment, et il va épouser Rachel. Et on a aussi, au chapitre 2 du livre de l'Exode, Moïse qui est en fuite. C'est avant la traversée de la mer, là. C'est Moïse plus jeune. Il a dû fuir l'Égypte et il arrive en Madiane près d'un puits. Et là, il va rencontrer la bergère qui va devenir son épouse aussi. Donc, c'est très sûr que les lecteurs visés par l'évangéliste Jean connaissent ces récits-là. Et l'auteur peut y faire allusion en sachant que les lecteurs vont comprendre qu'il y a là des connivences, et d'autant plus qu'ils connaissent aussi, et nous aussi, la symbolique conjugale utilisée par certains prophètes pour parler de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors, on est en plein dans des histoires d'alliance, puisque les trois récits aboutissent
à un mariage, finalement.
C'est ça, un mariage.
Donc, ce que vous dites, c'est ça, c'est que les lecteurs, connaissant leur Ancien Testament, là, ces histoires de puits, normalement, ça se termine par un mariage.
C'est ça. Okay. Alors, je ne vais pas vous dire que Jésus a marié, a épousé la Samaritaine, là, mais Jean, c'est clair, utilise le schéma de base des récits de Genèse 24-29 et Exode 2 pour construire son récit du chapitre 4. Mmh. Je ne dis pas que Jésus n'a pas rencontré la Samaritaine, mais que les récits anciens fournissent à l'auteur une manière de raconter cette rencontre. Hein. Alors, on voit par exemple qu'on a la même introduction. Jésus voyage en terre étrangère, et d'ailleurs il est présenté tout seul au début du récit, c'est au verset 5, alors qu'on sait très bien que les disciples ont voyagé avec lui. L'auteur est obligé de les rentrer, comme entre parenthèses, un petit peu plus loin.
Il les envoie faire des commissions.
Il les envoie faire des courses, c'est ça.
Ouais.
Donc, il présente Jésus tout seul en terre étrangère, mm-hmm. comme les trois hommes de nos trois récits. Et donc, ce voyage aboutit à un puits. Et dans les quatre récits, donc les trois de l'Ancien et le nôtre, une femme arrive, pour Moïse c'est plusieurs femmes qui arrivent, et elles arrivent après le voyageur, elles ne sont pas déjà au puits. Et la conversation s'engage, et il y a de l'eau qui est donnée, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, soit c'est le voyageur qui demande de l'eau, soit c'est le voyageur qui donne de l'eau. Alors, par exemple, le serviteur d'Abraham demande de l'eau à Rebecca, comme on disait tout à l'heure, hein, et elle lui en donne. C'est intéressant, Jésus demande de l'eau, mais il est lui-même l'envoyé, un peu comme le serviteur d'Abraham, hein, il est l'envoyé de Dieu, peut-être mm-hmm. pour trouver une épouse aussi, mm-hmm. au sens symbolique. Soit, dans nos récits, c'est l'homme qui donne à boire. Jacob et Moïse vont puiser pour les troupeaux des bergères qui sont là, c'est-à-dire Rachel et Sipora. Donc, Jésus aussi nous est présenté comme celui qui donne l'eau et cumule les deux rôles. Enfin, il propose à la femme de lui donner de l'eau. Donc, il est à la fois celui qui demande de l'eau,
ouais, il est le demandeur,
comme le serviteur d'Abraham,
ouais, oui.
et celui qui offre de l'eau, comme Moïse et Jacob. Alors, c'est intéressant, c'est l'offre que Jésus fait, hein, de donner l'eau. Il appelle ça le don de Dieu.
Et on sait, dans ces pays très chauds où le désert est omniprésent, combien l'eau, c'est la vie, finalement.
Absolument. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'était, dans certains écrits juifs, une métaphore, le don de Dieu, une manière de parler de la loi de Moïse. Alors, Jésus associé à Moïse, Moïse a donné la loi, c'est lui qui a transmis le don de Dieu qu'est la loi. Et maintenant, Jésus parle aussi du don de Dieu qu'il veut faire à cette femme. Et l'eau vive particulièrement, sert aussi parfois à désigner la loi de Moïse. Donc, on est vraiment en train de placer Jésus comme nouveau Moïse qui donne la nouvelle loi.
Hein. Ouais, on voit les différents niveaux de lecture.
Oui, c'est ça, absolument.
Ouais, ouais, ouais. Parlez-nous donc, est-ce que je vais trop vite pour la Samarie maintenant?
Non, parce que j'arrivais à Jacob et Jésus est présenté comme Jacob, donc rapproché de Jacob. Or, Jacob, c'est parmi les patriarches, les deux grands patriarches, c'est Abraham et Jacob. Isaac est moins présent dans les traditions. Mais Abraham est davantage dans les traditions du Sud, Et Jacob est davantage présent dans les traditions du Nord de l'Ancien Testament. Et la Samarie fait partie des régions du Nord.
Du Nord, oui.
Alors, on voit que, comme Jacob est très présent dans le récit de la Samaritaine, son nom est associé au lieu où ça se passe. C'est lui qui a donné cet endroit-là à ses fils. Cet endroit-là, c'est la Samarie. Finalement, pas, évidemment, c'est juste un petit bout de terrain. Mais pour eux, Jacob est leur père et ils sont ses héritiers. C'est intéressant parce que Jésus va proposer à la Samaritaine de considérer Dieu comme son père. Hein, le père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, donc, oui, la Samarie qui se reconnaît comme descendante des fils de Jacob correspond donc à une région qui est entre la Galilée et la Judée. Ça, c'est en termes géographiques. Ce qui est intéressant surtout, c'est en termes socio-religieux. À l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque des prophètes, elle est séparée de Jérusalem et elle est influencée, cette région, par les religions cananéennes. Hein. C'est ce qu'on appelle le royaume du Nord. Quand je dis qu'elle est séparée, c'est qu'il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud. Mm-hmm. Or, dans les religions cananéennes qui attirent les Samaritains, qui ne s'appelaient pas encore les Samaritains, mais les gens du royaume du Nord, dans les religions cananéennes, le dieu principal, c'est Baal. Certains de nos auditeurs se rappelleront peut-être le prophète Élie, entre autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, Baal, ça désigne Seigneur et Maître, et donc ça désigne aussi, en langage quotidien, le mari, qui était, bien sûr, à l'époque, le Seigneur et Maître. On est en société patriarcale.
Okay, donc c'est le même mot. Là,
c'est le même mot. Oui.
Pour mari et puis pour seigneur et maître.
Bien sûr, bon, c'est bon, ça. Bon. Mm-hmm. Alors, peut-être qu'en français aussi, il y a une époque où les femmes appelaient leur mari monseigneur.
Ouais.
Donc, on est proche de la symbolique conjugale. Et le prophète Osée, qui prêche dans cette région, au 8e siècle, avant Jésus-Christ, dénonce les infidélités et le fait que, on pourrait dire, la population flirte un peu avec Baal. Et il la dénonce en développant à fond la symbolique conjugale. Moi, j'inviterais les gens à aller lire le magnifique chapitre 2
du
prophète
Osée.
C'est vraiment remarquable.
Ouais.
Et là, on lit bien que c'est Dieu qui est le véritable époux et il se plaint de son épouse qui est le peuple et qui va avec Baal. Et Dieu se conduit, il parle avec les accents d'un amoureux passionné,
oui,
blessé.
C'est là qu'on retrouve, hein, je la séduirai, je parlerai à son cœur, elle me reviendra, elle ne m'appellera plus mon Baal, mais mon mari.
C'est ça. On voit que Osée présente vraiment un Dieu passionné. Hein. Très, il y a beaucoup d'éloquence dans ce chapitre 2. Et donc ici, on a un dialogue sur le don de l'eau. Hein? Et la femme n'a pas connu le don de Dieu. C'est ce que Jésus lui dit. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te parle. Osée dit ça aussi. Hein? Met ça dans la bouche de Dieu, dans sa symbolique conjugale. Elle pense qu'elle a reçu l'eau de ses amants, hein? Mais c'est moi qui la lui donne. Et elle ne connaît pas le don que je lui fais. Donc, vous avez terminé dans votre mémoire du texte d'Osée avec « Elle ne m'appellera plus mon Baal, mais mon mari ». Ça tombe très bien, là. Jésus demande « Va chercher ton mari ». On comprend pourquoi il enchaîne tout de suite avec l'histoire du mari.
Okay.
Et elle se fait... elle dit non,
c'est
j'en
elle
ai
qui
pas.
C'est elle qui ouvre la porte, si on peut dire. Il y a comme un mot crochet, là.
C'est ça, absolument. Et donc, Jésus va dire « Non, t'en as pas, mais maintenant, t'en as cinq ». Bon, c'est intéressant. Donc, au niveau symbolique, on joue entre Baal et Marie. Donc, faux Marie, vrai Marie, faux Dieu, vrai Dieu. Hein. Ça joue avec ça et faire alliance avec les faux dieux. Quand les Samaritains, vous savez, au temps de Jésus, je pense que les gens le savent aussi, sont considérés comme des schismatiques. Hein, alors, on ne doit pas les fréquenter. D'ailleurs, on voit la première réaction de la femme, comment toi, un juif, tu peux me demander à boire à moi, une Samaritaine. Donc, cette attitude de Jésus montre beaucoup d'ouverture et témoigne finalement du pardon de Dieu dans la ligne justement de ce qu'Osée dit. Je vais lui parler. On comprend pourquoi le dialogue est très élaboré. Il parle à son cœur, si je reprends les mots d'Osée. On pourrait dire, dans le langage du prophète Osée, qui est de la symbolique conjugale, il essaie de la séduire et de parler à son cœur. Je reprends les mots, sans, je veux pas créer
c'est
d'ambiguïté.
Comme,
on
c'est
comprend,
comme une reprise, mais... comme une reprise du prophète, du dialogue qu'on retrouve chez le prophète Osée, là.
C'est ça, mis en scène dans le décor narratif de nos histoires depuis qu'on a dans la Genèse et dans l'Exode. Donc, ça se rejoint bien. Bon, un commentaire qui est souvent fait par les exégètes à propos des cinq Maries concerne le fait que le Royaume du Nord avait été conquis, les gens avaient été en partie déportés et finalement d'autres populations avaient été installées venant de cinq villes païennes et donc les cinq Maries pourraient représenter les dieux de ces populations païennes qui avaient été déportées. Bon, on trouve ça... Si jamais les gens sont intrigués, au deuxième livre des rois, au chapitre 17, les versets 30 et suivants. Il n'y a pas un accord unanime là, là-dessus, parce qu'il y a sept dieux qui sont énumérés, mais il y a cinq groupes de personnes, de païens.
Les dieux des peuples étrangers établis un peu par force sur ce territoire de Samarie, selon la mode de l'époque.
Ils seraient figurés, ces dieux-là, païens, par les cinq Maries. Et on dit qu'il y en a sept dans le livre des rois, c'est vrai, mais l'historien Joseph, qui est au premier siècle, quand il parle de cette période-là, parle de cinq dieux. Donc, c'est pas tellement étonnant. Alors, donc, si les Samaritains sont les descendants de ces gens-là, évidemment, ils sont considérés comme adorant des faux dieux. Même si, à leurs propres yeux, les Samaritains adorent le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Un des reproches qui leur est fait concerne ce que la femme va amener dans la conversation, à savoir, ils adorent à leur propre temple, qui est sur le mont Garizim, au lieu d'adorer à Jérusalem. C'est comme si, après être passé des faux maris aux vrais maris, on passait des fausses religions aux vraies religions, ou du culte mal fait au culte bien fait. La femme pose une question à Jésus dans ce sens-là. Et Jésus répond, finalement, c'est pas plus faux ou moins vrai à Garizim qu'à Jérusalem. Le Dieu qu'il révèle cherche des adorateurs en vérité. Hein, et donc, c'est la vérité intérieure de la personne, hein, des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, on vient de passer comme d'une religion centrée plutôt uniquement sur le culte à la vraie religion, qui serait un peu
centré sur le Dieu unique qui transcende finalement toutes ces...
Oui, c'est ça, qui n'est pas attaché à un lieu en particulier, ni à un peuple, ni voilà. C'est pas ni les Juifs, ni les Samaritains, c'est pas ni Jérusalem, ni Garizim. C'est en esprit et en vérité.
Voilà. Et la femme laisse là sa cruche et retourne vite.
Oui, et elle va, va chercher, donc elle va témoigner de ce qui s'est passé à la ville. Ouais. Et ça aura, bon, nos trois récits finissaient comme ça aussi, hein, dans l'Ancien Testament. Alors, cette femme qui retourne va témoigner.
Elle devient messagère, elle devient apôtre, là, elle s'en va, elle retourne chez les siens.
Oui, avec une parole, disons, comme un petit peu plus nuancée qu'une parole d'apôtre, elle dit, peut-être serait-il le Messie.
OK. Il y a peut-être.
Mais il y a une ouverture, et il y a, en tout cas, certainement une conviction assez forte pour emporter la curiosité à tout le moins des gens, puisque le récit si je enchaîne tout de suite en disant que les gens de la ville viennent à Jésus. Or, il faut comme avoir les yeux à deux endroits. Pendant que les gens de la ville approchent, Jésus est en train de parler à ses disciples qui sont enfin revenus. Et il leur parle de sa mission. Et il en parle dans les termes de la moisson. Hein, vous dites, dans 4 mois, la moisson va être prête, donc on vient de semer. Et moi, je vous dis, levez les yeux et voyez. La moisson, elle est déjà prête. Et là, si les disciples lèvent les yeux, qu'est-ce qu'ils vont voir?
Les gens qui s'en viennent.
Les gens qui s'en viennent. Donc,
c'est intéressant,
les Samaritains qui sortent de la ville sur la parole de la femme sont la moisson déjà prête. Jésus vient tout juste de semer, pourrait-on dire.
Et
la femme, je dirais aussi, semé de son côté. De sorte que la moisson lève, et cette moisson, ce sont les gens de la ville, un peu comme si... Désormais, la nouvelle épouse, c'est toute la Samarie, hein, qui va entendre à nouveau son Dieu lui parler à travers Jésus et qui va pouvoir dire, oui, ce Dieu-là sauve, effectivement, c'est bien lui le sauveur du monde. Alors, c'est intéressant aussi la moisson comme image de fertilité, hein, parce que Baal, le faux Dieu, est aussi prétendument un Dieu de la fertilité. Donc, on voit, c'est une histoire qui commence avec un blind date, parce que Jésus et les Samaritaines ne se connaissent pas. Mais à la fin, on se rend compte qu'au fond, ils se connaissaient, ceux qui sont symbolisés par Jésus et la Samaritaine. C'est le Dieu d'Israël qui redécouvre ou se fait redécouvrir à son peuple, qui est cette portion de son peuple qui est en Samarie.
C'est ça. Ensemble de cette rencontre entre Jésus et cette femme, il y a une fécondité qui en découle.
Oui.
Hein? Elle s'en va, puis elle va dire aux gens, je pense que c'est ça.
Et ça se prolonge.
Et c'est ça. Et là, les gens reviennent et c'est eux qui font la profession de foi finale. Vraiment, c'est lui.
Ouais.
Et c'est pas à cause de... Ils vont même jusqu'à dire, je pense que c'est pas à cause de...
C'est plus à cause de toi, là. C'est
quoi.
Ça. Ça la dénigre
c'est toi qui
pas.
Non. Tu nous as fait signe.
C'est ça. Et
puis...
maintenant, on est content, on est venu. Alors, ça ouvre la notion du peuple de Dieu en alliance, là. Parce que, et donc, ça fait de la place pour nous aussi, puisque c'est plus juste le peuple juif, ce sont aussi les Samaritains, les schismatiques. Alors, dans ce sens-là, on pourrait dire que, voilà, c'est une histoire d'amour qui finit bien.
Bien. Alors, vous venez d'entendre Francine Robert, c'est Claude Julien qui vous parle, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et qui vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.